allons cet après-midi engager un... Alors, on a une grande chance, et c'est vraiment une chance qui est due à la fois à Pierre Radan, mais aussi à RTE, et puis je dirais à la bonne volonté d'un certain nombre de nos participants. On a la chance d'avoir la totalité de la chaîne des opérateurs sur le système énergétique, en tout cas dans le champ de l'électricité.
C'est des opératrices.
Claire, j'ai parlé d'opérateur, j'ai pas parlé d'opératrice. Ouais.
Là, tu creuses.
Voilà.
On peut tous partir si vous voulez.
Alors, là, Pierre, non, tu n'as pas la parole. Tu n'as définitivement pas la parole.
Il était sur les tables.
Alors, donc, la totalité des opérateurs, alors, que je vais essayer de présenter sans me tromper par ordre géographique, je ne sais pas comment dire, à partir de ma personne. Donc, Jean-Marc Proust, qui est alors responsable de la communication, c'est comme ça qu'il faut dire, à la FNCCR. La FNCCR, vous avez déjà dû entendre ce terme-là, on en reparlera. Donc c'est Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies. Non, je vous dis une bêtise. Nous verrons ce qu'il en est de la FNCCR. Et je tiens à le remercier particulièrement parce qu'il est en pleine préparation de son congrès annuel. Donc il a accepté de distraire une partie triennale, une partie de son temps précieux pour venir discuter avec nous. Nicolas Garnier, que je ne présente pas, que je pense que tout le monde connaît puisqu'il est intervenu ce matin. Hervé Lafaille, on m'a dit que vous étiez le numéro 3 de RTE, c'est ça?
Non, je suis directeur général.
Donc c'est 2 alors.
RTE, c'est une société anonyme à directoire, et nous sommes 4 membres du directoire.
D'accord.
Et je suis un des membres du directoire, donc avec le titre de directeur général adjoint, et le président du directoire, c'est Dominique Maillard. D'accord. Et puis ensuite, on se répartit dans les fonctions opérationnelles. Moi, je suis en charge de la direction dite au transport d'électricité.
D'accord.
Donc, deux bis.
Alors, vous aussi, je tiens à vous remercier personnellement parce que vous avez quitté une réunion extrêmement importante, un séminaire extrêmement important de RTE pour être parmi nous aujourd'hui. Et donc, vous allez vous aussi effectuer un exercice complexe puisque vous allez être à la fois membre de la table ronde, mais aussi en charge de la conclusion des débats. Et je vous en remercie particulièrement. Donc, le transporteur. On a plutôt donc les consommateurs,
distributeurs
et producteurs, le transporteur et un producteur, donc Monsieur Droguer. Alors Monsieur Droguer, à Poéo, quelle est la position que vous occupez dans le dispositif?
Alors je suis directeur des affaires publiques de Poéo et je fais partie de l'équipe à l'origine de la création de Poéo, donc en 2002, donc l'équipe de départ.
Alors, merci aussi d'être présent. Et enfin, un dernier, un petit nouveau que je ne sais pas si vous le connaissez, Pierre Radan, qui. comment dirais-je Pierre Radan, tel qu'en lui-même, l'éternité le change. Alors, je vous propose. Il me semble que. Vous allez me dire si les questions sont justes. Je vous propose d'organiser la table ronde en 3 temps, mais de manière aussi interactive avec vous et avec vos réactions et vos questions. Autour de trois idées simples. La première idée, peut-être refaire un tour de table pour que chacun dise la position qu'il occupe dans le système de production, de transport et de distribution de l'énergie. Quelle est la position que vous occupez? Et quels sont au fond vos enjeux dans le système? Qu'est-ce que vous défendez? Quelle est la position que vous tenez? Donc il serait plutôt une façon de se présenter, une façon légèrement problématisée de se présenter. Un deuxième temps, plutôt, autour de questions qui ont surgi ce matin, qui est peut-être aussi la question de Pierre Radan. Quel bilan chacun d'entre vous fait des 10 dernières années de ce processus de libéralisation et d'ouverture du marché? En sachant que, comme l'a dit Pierre Radan de manière très, très claire, hein, on, on n'est pas véritablement dans un processus de dérégulation, on est plutôt dans un processus de régulation. Ben, c'est l'hypothèse en tout cas qui est la sienne, c'est l'hypothèse qui est sans doute discutable à discuter. Quel bilan vous faites de ces 10 ans d'ouverture du marché? Et essentiellement autour de deux points, me semble-t-il, hein, qui sont premièrement, quel gain pour le consommateur citoyen? Et deuxième question, quelle efficacité de l'ouverture de ce système en termes de capacité à gérer ou à diminuer l'impact environnemental et les émissions de CO2? C'est-à-dire, autrement dit, le libéralisme ou le libéralisme assisté est-il un bon instrument pour lutter contre l'effet de serre? Peut-être une question un peu vaste. Et le troisième temps de la table ronde que je vous propose, au fond, c'est finalement comment est-ce que le système peut-il évoluer, à la fois en termes de règles de fonctionnement, mais peut-être aussi de qualité de qualification des opérateurs et de qualité de qualification des relations entre les différents opérateurs du système. Bon, voilà, c'est un peu basique comme question, mais je compte sur vous pour enrichir au fur et à mesure les éléments. Alors peut-être, ça va comme menu. Bon. De toute façon, c'est pas très négociable au début. C'est le centralisme démocratique.
Le marché n'est pas complètement ouvert.
Oui, on est bien dans ce système de pré-unbundling. Alors, donc, on peut peut-être commencer comme ça. Donc, la position que chacun occupe dans le dispositif, rôle, enjeu, qu'est-ce que vous défendez?
Jean-Marc Proust, donc FNCCR.
Bonjour à tous et merci d'avoir prononcé Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Sans se tromper, c'est relativement rare qu'on arrive à décliner ainsi l'acronyme. Nous sommes une vieille maison, qui a été créée en 1934, qui regroupe quelques 500 collectivités. D'une part, pour l'essentiel, des syndicats intercommunaux de taille départementale dans l'énergie, des syndicats d'électricité, le syndicat d'électricité des Côtes d'Armor, le syndicat d'énergie de la Dordogne, le syndicat d'électricité des réseaux de communication de la région parisienne, le CIPEREC, etc. À ne pas confondre avec les syndicats peut-être plus connus des habitants de cette maison, les autres syndicats d'électricité. Également des syndicats de gaz, moins nombreux, et également dans l'énergie des communautés de communes, des communautés urbaines, dans la mesure où le mouvement d'intercommunalité dans l'énergie n'est pas totalement achevé. Il y a quelques 40, 50 syndicats qui regroupent toutes les communes d'un département. Et pour les autres, ce travail n'est pas encore fini, il manque parfois 2-3 communes, notamment le chef-lieu. Également des collectivités qui interviennent, mais c'est moins le sujet aujourd'hui, dans le domaine de l'eau, syndicats d'eau, d'assainissement, et plus récemment, à la suite de la prise de nouvelles compétences, des collectivités qui interviennent dans les réseaux de télécommunications, notamment des réseaux de fibre optique, et les collectivités locales et les syndicats.
Ça marche.
Ah, c'est très sourd, c'est très évapé.
Comme ça.
Attention, ouais. Wow. Hein.
Alors, quel rôle joue la FNCCR? Elle a été créée pour l'électrification rurale, essentiellement. Depuis 1906, la loi de 1906, les collectivités locales sont propriétaires des réseaux de distribution. Donc, depuis les postes de transformation, qui sont pour partie propriété des collectivités locales, pour partie celle du RTE, jusqu'aux compteurs, donc notamment la question des compteurs entre guillemets communicants de RDF intéresse le point de nos adhérents, puisque ce sont la propriété des deux territoires d'expérimentation dans la région lyonnaise et en Indre-et-Loire sont des territoires qui sont ceux de nos adhérents, donc qui s'impliquent dans ce processus. Notre rôle, c'est essentiellement la distribution d'électricité. La loi nous confie l'organisation du service public de l'électricité depuis 2000. Et aujourd'hui, outre la distribution, donc le contrôle essentiellement du concessionnaire ERDF sur 95% du territoire et sur les 5% restants d'entreprises locales, comme le gaz et l'électricité de Grenoble, par exemple, la régie de Tône, outre le service public de distribution, il y a également le service public de fourniture, qui a été officialisé en ces termes plus récemment avec la loi de décembre 2006, et qui est un service public qui existe depuis très longtemps, si vous voulez, mais qu'il faut maintenant asseoir dans un nouveau paysage avec l'existence d'un opérateur comme EDF, opérateur de service public, dans un paysage concurrentiel où le service public, qui est celui des tarifs réglementés de vente, peut aussi s'étendre à d'autres missions qui sont celles de l'information et de la protection des consommateurs. Donc notre rôle, en deux mots, c'est celui de la qualité de l'électricité distribuée. On va contrôler que EDF fait bien son travail. De temps en temps dans la presse, on marque certaines insatisfactions par rapport à la qualité des réseaux et au faible investissement de ces dernières années sur les réseaux de distribution et notre concessionnaire principal. Et puis le service public de fourniture, le contrôle des tarifs réglementés de vente et des conditions générales de vente. Et plus modestement, mais c'est une mission qui importe pour nous, la création d'une marque de confiance qui s'appelle Claire Énergie, qui distingue les opérateurs qui ont des pratiques commerciales vertueuses, c'est-à-dire qui s'empêchent de sonner chez un client pour le démarcher après 20h le soir, et qui ont des conditions générales de vente rédigées dans les caractères suffisamment gros pour être visibles par tout le monde. Cette marque de confiance Claire Énergie a, entre guillemets, labellisé quatre fournisseurs à ce jour, Altergaz, Pop, et puis deux fournisseurs locaux, Sorégie et GEG Source d'énergie, la filiale de gaz et électricité de Grenoble. Notre rôle, nous voici, ce qu'on attend ensuite, quels sont nos objectifs. Premier objectif, c'est de réussir notre congrès la semaine prochaine.
C'est pour ça qu'on
se voit tous les trois ans avec les opérateurs préférés, c'est l'occasion de faire avancer quelques dossiers. Notre priorité, c'est très classiquement celle que l'on va décliner la semaine prochaine dans ce domaine-là. Dans le domaine de l'eau, j'en parle juste un mot parce que ce n'est pas sans lien avec ce qui pourra se passer dans l'électricité à l'échelle de 10-15 ans. Aujourd'hui, nos collectivités s'interrogent sur la façon de mieux gérer le service public, délégation d'un côté, retour en régie de l'autre. Donc on confronte deux de nos adhérents, le CEDIF, le syndicat des eaux de France et la ville de Paris, qui ont des votes différents et qui vont confronter leur point de vue. Notre objectif étant de toute façon la satisfaction de l'usager. Et on considère que nos adhérents sont maîtres chez eux et donc on leur laisse la liberté de choix. Pour l'énergie, trois ou quatre sujets, la question des compteurs intelligents, que j'ai évoqué, la question des énergies renouvelables et de la maîtrise de la demande, qui sont des sujets qui montent très fortement en puissance chez nos collectivités, la sécurisation des réseaux. On a eu l'occasion de se disputer un petit peu avec l'EREF à l'issue de la tempête Klaus au début de l'année. Là, pour lancer le débat qui aura lieu mardi prochain en présence de Michel Francoli. On publiera lundi un rapport sur la sécurisation des réseaux d'électricité qu'on mettra en ligne sur le site. Et puis également, on consacrera une table ronde à la question de l'avenir des concessions d'électricité et gaz en présence des concessionnaires pour réfléchir aux scénarios qui sont ceux aujourd'hui d'un monde ouvert à la concurrence sous la pression bruxelloise. La question des concessions aujourd'hui se heurte à une analyse juridique parfois contraire entre le droit français qui dit qu'il y a deux opérateurs en situation de monopole, GRDF et RDF, et le droit européen qui parfois dit lorsqu'il y a un appel de construction qui arrive à expiration, il faut absolument remettre en concurrence et faire la publicité à l'échelle européenne. Voilà.
Juste une question, si vous permettez. Vous disiez que dans vos fonctions, dans les fonctions des autorités concédantes et des régies, entrait le contrôle de la qualité de RDF comme distributeur. Quels sont les moyens, techniques, humains, dont disposent les collectivités ou les syndicats pour réellement exercer un contrôle? Est-ce que par rapport à un opérateur comme ERDF, finalement, techniquement, vous n'êtes pas un peu démuni, si je peux dire? C'est pas du tout péjoratif.
Vous êtes moins bon?
Peut-être, voilà.
Moins de moyens. On est moins nombreux, c'est certain. Faut dire les choses simplement. Les contrats de concession qui ont été signés dans les années 1920-1930, etc., se sont retrouvés en 1946, au moment de la nationalisation, d'une certaine manière vidés de leur contenu, avec la création de deux monopoles nationaux, EDF et Gaz de France. La vie concessionnaire a été un petit peu en sommeil pendant quatre décennies. Dans les années 90, il y a eu une volonté de reprise en main du contrat de concession, à l'initiative à la fois de la FNCCR, d'EDF et de Gaz de France, c'est une volonté commune. Et donc on a renégocié des contrats de concession qui ont été ensuite déclinés localement avec des signatures pour des contrats qui courent sur 20, 25, parfois certains d'entre eux 40 ans. Et depuis les années 90, nos adhérents se dotent progressivement des moyens de véritablement contrôler l'activité du concessionnaire, donc ce sont des moyens humains. Il y a des moyens financiers qui sont liés à la concession. Quand il y a une concession, il y a une redevance qui permet de financer le contrôle, quel que soit la concession. C'est un schéma assez classique. Et puis, pour l'expertise technique, pour l'expertise financière et comptable, il y a aussi la possibilité de s'appuyer d'une part sur les cabinets spécialisés, et nos adhérents ne se privent pas de le faire. Il y a les comptes rendus d'activité du concessionnaire, qui sont les comptes rendus annuels, qui sont obligatoires, qui doivent être présentés devant le groupement des élus, qu'on appelle un comité syndical. Certains de nos adhérents ne sont pas satisfaits des données techniques ou des données financières présentées par l'ERDF. Si je prends un exemple proche géographiquement, le CPREC, le syndicat de la région Île-de-France, si je me souviens bien, ça doit être la troisième ou quatrième fois que le comité syndical refuse d'approuver le compte rendu annuel du concessionnaire. C'est peut-être quelque chose que M. Lappel connaît bien pour avoir été à Villejuif. Les chiffres présentés par l'ERDF d'une année sur l'autre ne permettent pas au CPREC d'exercer son activité de contrôle. Vous avez des charges, comme par exemple celles qui sont affectées à des ressources nationales, ressources humaines, communication, etc., qui varie d'une année sur l'autre sans que ce soit justifié. Donc l'autorité concédante, le CPREC, estime qu'elle n'est pas en mesure d'assurer son contrôle. Et il nous semble aussi qu'il y a deux, trois comptes rendus qui ont fait l'objet d'un accord assez fort avec nos adhérents pour que ça se retrouve devant les tribunaux.
Merci beaucoup. Donc, allez-y, passez le micro. Ah oui, très bien. Alors, Nicolas Garnier, donc, vous avez ce matin assez largement expliqué. Alors peut-être plus votre, enfin, un point de vue général, que d'une certaine manière la posture et la position de votre lobby, pour utiliser le terme, votre association, pour utiliser le terme que vous avez employé. Alors est-ce que vous êtes raccord avec la FNCCR ou est-ce qu'il y a, c'est pas la même chose, qu'est-ce que, vous voyez la place que vous tenez dans le système et ce que vous y défendez?
Enfin, sur la question de la distribution, je crois que j'adhère à peu près tout ce qui a été dit par Jean-Marc. Nous, on se positionne, c'est vrai qu'on a une approche qui est peut-être moins une approche de gestionnaire de réseau, qui est plutôt la culture initiale de la FNCCR, ou une approche qui est d'abord environnementale. C'est-à-dire que nous, on a plusieurs services sur la gestion des déchets et de l'énergie. Et notre approche, c'est de dire comment aider les collectivités locales à développer une démarche environnementale qui n'est pas une démarche écolo, une démarche environnementale dans ces services-là, c'est-à-dire déchets, énergie, etc. Donc, nous, c'est cette approche-là qu'on. Par ce biais-là qu'on aborde la question et de la consommation d'énergie, et de la distribution d'énergie, et de la production d'énergie, qui sont pour nous les trois piliers de ce que peut faire une collectivité. Une collectivité, ça consomme, forcément, je vous l'ai montré ce matin. Une collectivité, ça distribue, Jean-Marc l'a dit. Au passage, vous remarquerez que sans s'être concerté, il vous a aussi dit qu'il y a eu 40 ans de sommeil, hein, on ne s'était pas concerté. Et puis il y a, et ça on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, j'espère qu'on aura l'occasion de l'aborder, ces collectivités qui produisent, parce que ce que je vous ai dit ce matin sur l'autonomie territoriale, ce qui est un peu l'espoir d'un certain nombre de territoires, ça passe aussi par des opérateurs qui produisent, mais ces opérateurs ça peut être des collectivités locales. On a énormément de collectivités locales qui se lancent dans l'éolien. Alors je fais une petite aparté, mais je représente aussi ici le club Cléo, qui est le club des collectivités éoliennes, qui s'est créé il y a maintenant un an et demi, hein, qui sont les collectivités qui se battent pour que l'éolien se développe dans des conditions rationnelles mais efficaces. Il y a également tout ce qui est lié au bois énergie, avec la montée en puissance des champs privois, des réseaux de chaleur au bois. Également tout ce qui est de la production liée à la valorisation énergétique des déchets, usines d'incinération, méthanisation, etc. Et bon, j'insiste là-dessus parce que, comme je ne voudrais pas me répéter par rapport à ce matin, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie la collectivité qui produit de l'énergie. Et puis ensuite, on en a beaucoup parlé ce matin, donc je ne vais pas assez parler ce matin, je ne voudrais pas y revenir, mais toute la logique de la collectivité qui aménage son territoire et qui fait de l'urbanisme, et qui, de par ce pouvoir et cette compétence-là, a une capacité d'intervenir de manière flagrante sur la consommation d'énergie de ces populations. Donc voilà, en gros, moi, ma position par rapport peut-être à la FNCCR, c'est une approche peut-être un peu plus environnementale, je sais pas si vous voulez un peu à une dissociation, mais globalement, on doit marcher main dans la main sur ces sujets-là, parce que ce qui a été dit sur le contrôle de concession, j'y adhère complètement, et sauf qu'on a un particulier. Le CIPEREC aussi adhère en amorce, donc on n'a pas les mêmes informations. Aujourd'hui, on a des collectivités qui bloquent sur effectivement la négociation des contrats. Il y a un débat qu'on pourrait peut-être aborder aussi, enfin je vais l'aborder de manière peut-être un peu caricaturale, mais moi il me semble intéressant, c'est que, comme l'a dit Jean-Marc, on est autorité concédante des réseaux de distribution, mais ce n'est pas nous qui décidons des tarifs d'accès. veux dire que partiellement, c'est un peu comme si, quelque part, ce n'était pas la ville de Paris qui décidait du ticket de métro. Donc aujourd'hui, on a une propriété, et c'est le cas, partiellement, partiellement. En tout cas, aujourd'hui, l'un des débats qu'on pourrait avoir sur la partie distribution, au-delà de la mise en concurrence, comme je vous l'ai dit ce matin, et ça a été répété, je crois, tout à l'heure, je crois qu'on va forcément vers un débat sur la mise en concurrence des réseaux de distribution. J'ai dit débat, j'ai pas dit libéralisation à tout va, un débat à avoir. Il y a un deuxième débat qui est effectivement, est-ce que les conditions d'accès, quel est le rôle des collectivités locales sur les conditions d'accès au réseau. D'ailleurs, ça n'est pas sans lien avec la question de la production. Nous, on a eu beaucoup de projets dans les années 2000 à 2010 sur, par exemple, des collectivités qui voulaient produire localement pour consommer localement. Ben ça, aujourd'hui, la construction du dispositif ne permet pas de faire ça. C'est-à-dire que vous êtes obligé en tant que producteur d'avoir accès au réseau, donc de payer un ticket d'accès au réseau, et en tant que consommateur dans la piscine d'à côté, enfin en gros je vous prends une usine d'incinération qui produit de l'électricité qui voudrait alimenter une piscine. C'est un peu caricatural entre nous, mais c'est juste pour la démonstration, d'accord ? C'est mon installation qui produit de l'énergie, c'est mon installation qui la consomme. Aujourd'hui, le dispositif actuel ne permet pas la consommation de proximité, en tout cas dans sa structure tarifaire.
Pour l'électricité,
et nous on pense qu'il y a effectivement un domaine intéressant. Alors dernière chose, je pense qu'on est un peu focalisé sur l'électricité. J'aimerais bien qu'on parle aussi un peu de gaz à l'occasion, sauf si vous avez décidé de faire une table d'élèves, ce qui prouve que ce que j'ai dit ce matin sur la monoculture électrique n'est pas complètement disparu. Je pense aussi dans le domaine du gaz, il y a des choses à dire, par exemple du côté de la maîtrise de l'énergie. On parle beaucoup de MDE, et pendant longtemps MDE ça voulait dire maîtrise de l'électricité. J'aimerais bien qu'on parle un peu de MDG à l'occasion. Hein. Et deuxième élément intéressant également, il y a dans le domaine des énergies renouvelables une énergie qui existe, ça s'appelle le biogaz. Sur lequel, et là je le reconnais puisqu'il y a des gens d'EDF dans la salle, j'aimerais que leurs collègues de GDF aient le même enthousiasme sur le biogaz renouvelable que l'a eu Énergie Nouvelle sur l'électricité renouvelable. Voilà. Ça plante un peu le décor.
Merci beaucoup. Alors, donc, Hervé Lafaille, oui. Même motif, même punition.
D'accord, donc comme je n'ai pas participé à vos premiers débats, je ne sais pas. Alors, si il y a des redites. Hein,
Donc on a eu une introduction de Michel Berdebré, mais assez plutôt générale sur la situation du marché, les enjeux, etc. Et une présentation très précise du fonctionnement du marché, mais pas forcément centrée sur RTE, par Stéphane Cosset.
D'accord, RTE carte de visite d'abord. Hein, donc RTE existe en tant que société anonyme, donc filiale à 100% d'EDF depuis 2005. C'est 8500 salariés, 4 milliards de chiffre d'affaires, 100 000 km de lignes que vous connaissez, les lignes dites à haute et à très haute tension sur, qui parcourent la France. Qu'est-ce qui définit d'abord la différence entre distribution et transport en France, hein? C'est ce qu'on appelle le niveau de tension. Donc au-dessus de 20 000 volts, grosso modo, CRTE, en dessous de 20 000 volts, ce seront les distributeurs. On en a déjà parlé, et je vais le faire en contrepoint, il y a une grosse différence de statut entre RTE et les distributeurs, c'est que nous sommes propriétaires des ouvrages. Donc, au fond, notre concessionnaire, c'est l'État, qui, à travers un contrat de service public, donc nous délègue notre mission de transport de l'électricité en France, mais nous sommes propriétaires donc des actifs hein, que nous construisons, que nous entretenons. Voilà, autour de 20 000 volts, cette séparation, il faut savoir qu'elle change selon les différents pays européens. Alors oui, moi je vais parler d'électricité.
La distinction entre transport et distribution existe partout.
Oui, la distinction existe partout. Et au fond, pourquoi ce n'est pas un critère technique, je pense, hein, c'est que c'est surtout lié justement à cette histoire de concession ou pas. Et que évidemment, en Allemagne, sans surprise, vu le pouvoir qu'ont les lenders, la distribution va monter plus haut en tension, c'est-à-dire va s'occuper de plus de réseaux et avec plus de rôles joués par les lenders et les autorités locales. Bon, on va retrouver un petit peu aussi des formes de gouvernance selon les différents pays. Alors pour faire plaisir à madame, moi je vais me concentrer sur l'électricité, parce que c'est féminin par rapport au gaz. Hein. C'est tellement féminin, je vais commencer par là un petit peu de lyrisme, hein. C'est une fée, d'accord. Hein, lundi soir, j'ai eu la chance d'être à l'avant-première d'un film qui va sortir de Nicolas Hulot, vous verrez bientôt, il s'appelle Le syndrome du Titanic. Hein, c'est un livre déjà de lui, ça explique bien hein, ce que ça veut dire, hein, nous sommes dans le Titanic. Hein. C'est un film assez sombre sur les désastres écologiques et économiques. La seule lueur d'espoir, alors j'ai regardé ça avec les yeux de Chimène, hein, qui est une fille encore, donc la seule lueur d'espoir, c'est l'électricité. seule lueur d'espoir, c'est de dire l'électricité, vecteur de progrès, vecteur d'hygiène, vecteur de santé. D'accord ? Bon, je termine là-dessus. Donc moi, je vais me concentrer sur l'électricité. Alors, RTE, d'abord, et je vais peut-être dire les choses différemment du co-orateur de la FNCCR, le seul monopole qu'il y ait jamais eu en France, c'est justement celui du transport. Si vous regardez la loi de 46, il n'y a jamais eu de monopole de production d'électricité en France, il n'y a jamais eu de monopole de la distribution, commercialisation. Et au fond, les nouvelles dispositions nous font retomber sur nos pieds, puisque nous sommes donc l'opérateur en charge de ce monopole en France. Ça veut dire que nous sommes très fortement régulés par la Commission de régulation de l'énergie. Ça veut dire qu'évidemment, à travers, je l'ai déjà cité, un contrat de service public, on va avoir un certain nombre de missions. Je ne vais pas toutes les détailler, mais celles qui me paraissent essentielles. Je vais les résumer en disant, puisqu'on parle de marché, nous, on doit créer la place de marché. Créer la place de marché, ça veut dire qu'au fond, cette infrastructure, elle doit permettre que, elle doit d'abord fonctionner en sécurité. Donc notre premier rôle, peut-être, c'est de s'assurer que le réseau, qui est l'instrument qui va lier entre les producteurs et les consommateurs, eh bien, il fonctionne de manière sûre. Donc, pas de blackout si possible. Et deuxièmement, c'est de donner accès à cette infrastructure de manière non discriminatoire à tous les acteurs. D'accord ? Et là, on rentre véritablement dans les enjeux de marché. Et enfin, troisième point très important, notre réseau de transport est interconnecté avec les voisins et l'ensemble de l'Europe. Donc RTE a comme rôle aussi de gérer cette interconnexion, et j'en reparlerai probablement plus tard. Hein. Et donc il est porteur d'enjeux qui dépassent simplement les enjeux énergétiques français, mais qui sont au fond d'être l'un de ceux qui gèrent le système électrique européen. Bon, voilà ce que je voulais dire, hein. Donc je m'en arrête là, et pour le moment.
D'accord, merci beaucoup. Alors, monsieur Droguer, donc vous êtes producteur, fournisseur. Alors allez-y, racontez-nous un peu Poweo. Enfin, moi,
je vais peut-être faire une présentation peut-être de Poweo pour ceux qui ne connaissent pas. Poweo est une jeune entreprise, puisque Poweo a été créé en 2002. C'est une entreprise qui est issue d'un projet entrepreneurial qui a été en fait initié par Charles Belbédé. 2002, c'est pas un hasard, puisque en fait il a eu l'idée de Poweo au moment du sommet de Barcelone. Je crois que c'était en mars 2002, qui devait être le dernier sommet européen avec le couple Chirac-Jospin. Et les deux, au sein de ce sommet, l'ensemble de nos partenaires européens ont demandé à la France d'ouvrir leur marché d'électricité et de gaz pour les particuliers et pour les entreprises. Et en fait, la France, suite à ce sommet, s'est engagée. Donc Charles Belbédé s'est dit, bon, il y a peut-être une opportunité intéressante. Il se trouve que dans sa vie de banquier d'affaires dans les années 90, il était basé à Londres et il avait vécu l'ouverture des marchés dans les années 90 en Angleterre. Il avait été initié par Mme Thatcher. Et dans son activité de banquier d'affaires, il avait pas mal opéré auprès d'opérateurs, les anciens et les nouveaux entrants. Donc il avait cette expérience. Et il s'est dit, peut-être un peu naïvement à l'époque, en France, il va se passer la même chose. Il va y avoir un marché, donc ça va être intéressant. Donc voilà un petit peu l'idée de Poweo.
Pourquoi naïvement ?
Parce qu'on va voir que dans la, on va voir un peu dans la suite, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Et l'organisation de l'ouverture du marché en France ne s'est pas fait dans les mêmes conditions, c'est ce qu'on peut dire. Donc on a débuté une petite équipe. Hein, donc 2002-2004, c'est une période où nous avons fait de l'achat pour revente d'énergie, en fait, sur les activités de trading. Hein, et c'était l'idée, c'était de bien connaître le fonctionnement des marchés et de se familiariser aussi aux offres à destination des grandes entreprises. Donc on avait une petite cinquantaine de clients qui étaient des grands industriels à qui on vendait de l'énergie. On se préparait parallèlement et on montait les équipes pour l'ouverture des marchés de 2004, qui était l'ouverture aux professionnels. Donc là, on passait de environ quelques milliers de sites éligibles, période 2000-2004, à 2,5 millions de clients éligibles, qui étaient l'ensemble des PME, commerçants, artisans. Donc c'était déjà une étape très importante. Très rapidement, en 2004, on s'est aperçu que les conditions de marché pour un commercialisateur, c'est-à-dire le commercialisateur, c'est celui qui achète en gros et qui vend au détail, étaient très compliquées, puisqu'on est arrivé à une période où on débutait ce qu'on appelle le squeeze tarifaire, c'est-à-dire le marché de gros à des prix supérieurs au marché de détail. Et là, pour un commercialisateur, ça devient très compliqué. Donc, on a fait un virage très important, puisque nous avons fait un virage dans la production. Donc, l'idée, c'était de venir, de toute manière, le métier de commercialisateur, en fonction du cycle de l'énergie, c'est-à-dire les périodes d'investissement, les périodes d'amortissement. La France arrive à une période d'investissement, c'est-à-dire qu'il va falloir investir dans des moyens de production. C'est une période qui n'est pas du tout la période idéale pour un commercialisateur, puisque forcément, les prix de gros se calent de manière à favoriser l'investissement et donc plutôt la production. Ça, c'est une des raisons. Donc, on a commencé à rentrer dans la production. Évidemment, comme c'est une activité très capitalistique, nous avons cherché des partenaires et nous sommes associés à l'époque avec le groupe Verbund. Alors Verbund, c'est l'opérateur autrichien, c'est un peu l'EDF autrichien, si vous voulez, l'opérateur national autrichien, qui est détenu d'ailleurs à 51% par l'État, toujours, aujourd'hui. Le reste est coté à la Bourse de Vienne. Et c'est un spécialiste en Autriche, c'est 90% d'hydraulique. C'est l'électricité, c'est particulière. Et il y a une spécificité aussi autrichienne, c'est qu'il y a une... Alors on dit toujours dans la Constitution, mais c'est faux. En fait, il y a une loi constitutionnelle en Autriche qui a été votée par référendum qui interdit le nucléaire en Autriche. Ça, c'est un point spécifique. Donc avec ce partenaire qui est rentré dans notre capitale à l'origine autour de 30%, on a commencé à investir dans la production avec deux axes. En fait, c'est les axes où en fait, il y avait des besoins. Hein. Donc c'est l'énergie de pointe, donc cycle combiné à gaz, enfin semi-base et pointe. Donc on a eu ce projet de cycle combiné à gaz en 2005. Nous avons fait le premier feu cette année. Donc c'est une centrale de 400 MW cycle combiné à gaz qui est à Pont-sur-Sambre, à côté de Maubeuge. Et le deuxième axe de développement, ce sont les énergies renouvelables. Là, on est allé un petit peu tout azimut, puisqu'on s'est développé dans l'éolien. On a racheté un bureau d'études en fait, qui faisait des projets éoliens. Et en fait, à travers ce rachat, on a racheté des projets. Et donc, on a ensuite développé ce parc éolien. Donc aujourd'hui, on a environ 92 MW d'éolien. Donc, ce qui est quand même assez important. On a inauguré notre dernier parc, d'ailleurs, hier, sur le plateau de Landes. Sur la biomasse, puisque nous avons participé aux appels d'offres lancés par la CRE, on a gagné deux projets. Dans l'hydraulique, nous avons acheté deux petits barrages. On y reviendra, ça va devenir un axe de développement important pour EO. Donc voilà, c'est aujourd'hui, sur les 500 MW de production pour EO, il y en a 410... il y en a 400... cycles combinés à gaz et environ 100 en renouvelables. Notre objectif d'ici 2012, c'est de passer à 1600 en cycles combinés à gaz. Donc il y en a un de 400 qui est en projet qui est très abouti, qui est à Toul, et un autre de 800 qui est un petit peu moins abouti, qu'on va développer, et de monter surtout en puissance sur le renouvelable, éolien, solaire, puisqu'on a des projets importants, et biomasse.
Qui sont vos clients? Vos clients sont...
Alors voilà,
sur quel marché?
Donc ça, c'est la partie amont. Sur la partie aval, donc, nous sommes préparés à l'ouverture des marchés en 2007, pour les particuliers, avec une montée en puissance d'une offre combinée gaz-électricité, puisqu'entre-temps, nous avons fait le choix d'aller sur le marché du gaz, comme commercialisateur. Et aujourd'hui, pour vous donner une photographie sur ce segment aval, on a environ 350 000 clients, dont 80 000 entreprises. Alors les 80 000 entreprises sont essentiellement des commerçants artisans, donc c'est le moins 36 KVA, hein, tarif bleu de l'EDF. environ 100 clients. Alors c'est un peu compliqué, mais ce que on appelle des clients tartam. Ce sont des industriels qui avaient renoncé au tarif, mais qui sont revenus dans une régulation via un mécanisme législatif. Donc ça, c'est des clients assez importants. Et on a environ 65 000 clients particuliers en gaz. Donc c'est un portefeuille de 350 000 clients. Les objectifs de Poéo, c'est environ 1 million de clients à l'horizon 2011. Fin 2011. Alors, si on veut, pour parler des enjeux, puisqu'on est dans une période très particulière où on parle beaucoup des régulations, de régulation de l'amont ou l'aval, nous on est dans une optique, effectivement, maintenant en tant que producteur et opérateur intégré, on a tendance à penser que l'enjeu principal pour le marché électrique en France, c'est la sécurité d'approvisionnement et donc l'investissement, et l'investissement dans la production. Cet enjeu implique que les signaux pour investir, comme nous on est vraiment un opérateur privé, donc on investit, quand on investit dans une centrale, c'est 20% de fonds propres et 80% de dette. Aux 80% de dette, ça veut dire qu'il va falloir prouver à notre banquier que notre projet est rentable. Donc pour qu'il soit rentable, il faut vraiment avoir les bons signaux d'investissement. Donc c'est vraiment, on est totalement dépendant on va dire, des rendements possibles dans l'investissement. Donc ces investissements, à notre avis, sont vraiment les enjeux principaux. Pourquoi je dis que c'est un enjeu aval? Parce que ça veut dire que le système tarifaire, les tarifs d'électricité, doivent donner les bons signaux pour investir dans la production. Et ça, c'est un point qui nous paraît fondamental. Le deuxième enjeu est que là, on aimerait, on lit, et je pense que c'est le moment de le faire, à la problématique de lutte contre le changement climatique, c'est de considérer que la fourniture d'électricité, ou la fourniture d'énergie, d'ailleurs électricité et gaz, doit favoriser l'innovation. Et donc, je dirais même que c'est le but premier de la concurrence. La concurrence est là pour stimuler l'innovation, et de faire en sorte que le consommateur ne soit plus, je montrerai peut-être un peu plus longtemps, mais ne soit plus un usager, mais soit un client responsable qui achète et qui gère son énergie. Et gérer son énergie, ça veut dire aussi maîtriser sa consommation. Et donc là, notre philosophie en fait, de fournisseur d'électricité, c'est de fournir une offre globale qui va de la fourniture de l'électron au service de maîtrise de la demande, aux services innovants sur les compteurs intelligents. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Si
vous... Une espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'une partie de votre activité consiste à réduire l'autre partie de votre activité.
Alors, bon, d'une part, on n'est effectivement pas producteur de base, donc pas producteur de nucléaire, donc effectivement, nous restons des producteurs de
points,
donc nos problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Et par ailleurs, on assume totalement le fait qu'on est rentré dans une période où il faut maîtriser sa consommation, et maîtriser sa consommation d'énergie. Donc ce qu'on appelle mieux consommer et moins consommer, ça veut dire, on faut lier les deux, c'est-à-dire moins consommer, ça veut dire moins consommer dans les périodes de pointe. Et moins consommer dans les périodes de pointe, c'est mieux consommer. Donc c'est pas si paradoxal en fait.
Juste peut-être une incidente, parce que je voyais réagir Nicolas Garnier quand je posais la question de qu'est-ce que vous avez comme client. Nicolas Garnier disait en aparté amorce. Bon, alors pourquoi amorce?
Juste pour illustrer, donc moi je suis client pour Poéo depuis 5 ans maintenant, puisque quand on s'est intéressé, comme je vous l'ai dit ce matin, à l'ouverture des marchés, on a montré que ça marchait. Et donc j'ai fait un petit appel d'offres avec une publicité dans un certain nombre de revues en disant voilà, amorce met en concurrence, mais nous la règle elle est simple, on veut 100% renouvelable, 0% grande hydraulique, et on veut un tarif inférieur au tarif administré. À vous de jouer. Donc j'ai 8 offres, complètement incomparables les unes aux autres, pour votre information, ce qui montre la difficulté que peut avoir un consommateur type à comparer. C'était totalement incomparable. On a passé 3 jours à essayer de construire un tableur qui permettait de comparer des offres. Certains n'avaient pas la TVA, d'autres n'avaient pas mis la part fixe, d'autres avaient intégré des systèmes de primes, enfin des choses très compliquées. On a fini par signer, alors, avec Poéo, qui nous a donc aujourd'hui, j'ai une offre, mais au passage, je ne veux pas non plus trop faire le fier, j'ai une offre un peu particulière, puisque j'ai une offre à 80% éolien, 20% solaire, que je paye au prix du tarif administré.
clairement, c'est la situation, d'amorce qui l'a permis. Je veux dire, le consommateur lambda ne le fait pas. Mais l'idée, c'était de montrer qu'on pouvait, un peu comme je l'ai dit ce matin, par la demande, faire évoluer l'offre. Et donc voilà, aujourd'hui, on a une offre tarifaire qui tient la route avec un 100% renouvelable hors grande hydraulique. C'était juste une démonstration qu'on a voulu faire. Et au passage, les locaux d'amorce sont éclairés. Nous n'avons jamais de coupure. On a eu des problèmes par contre pour récupérer le certificat vert. Enfin, j'ai dit au bout du raisonnement, juste on a mis un an et demi, il a fallu que j'appelle Charles. J'ai appelé Charles Bébé sur son portable pour avoir mes certificats verts, sinon je ne les avais pas. Voilà, donc, maintenant, si ça ne marche pas, tout n'est pas fluide quand même.
C'est une illustration que l'ouverture des marchés, c'est effectivement choisir son fournisseur, mais c'est aussi choisir son énergie. Ça, c'est des offres qui, dans le tarif administré, n'existaient pas. C'est qu'on a des offres effectivement 100% vertes avec le mécanisme des certificats verts. Alors, qui est contestable, mais aujourd'hui c'est la règle. Donc si on change les règles, nous on s'adaptera. Si on parle des certificats d'origine et autres, on s'adaptera. Mais aujourd'hui le mécanisme qui existe, c'est le mécanisme certificat vert, et donc on peut garantir à nos clients, non pas qu'ils consomment l'énergie 100% verte, bien évidemment, mais que l'énergie qu'ils nous achètent, nous l'achetons, et nous l'achetons auprès de producteurs d'énergie renouvelable, donc via ce mécanisme. Donc, c'est vrai que c'est la demande qui crée l'offre dans ce cas. C'est que la demande d'énergie verte fait que nous, on achète aux producteurs, et donc plus il y aura de clients qui nous demandent des offres vertes, et plus l'offre de producteur va s'étoffer.
On va revenir là, parce que c'est un éléments de bilan de marché.
C'est un sujet intéressant de savoir comment on peut prouver qu'on fournit de l'énergie
Oui.
Alors, on peut prouver qu'on l'achète, on ne peut pas prouver qu'on la livre, bien évidemment, puisque oui, ça ne marche pas comme ça.
Quelle est la couleur de l'électron que je reçois in fine
C'est pas les certificats, c'est un engagement, c'est un marché de traçabilité qui aujourd'hui fonctionne pas trop mal, avec un certain nombre de dérives d'ailleurs, enfin, il faut rentrer un peu dans les détails, mais aujourd'hui, il y a un système d'annonce, on va dire, de déclaration de vente et d'achat, qui fait qu'on peut considérer qu'effectivement...
Vous posez une petite question.
Oui, vas-y, bien sûr, allez-y.
Comment est-ce qu'on peut vendre?
Attends, est-ce que tu peux dire à chaque fois, vous pouvez dire qui vous êtes et d'où vous parlez, pardon, hein. C'est pour l'information des...
Je crois que je connais la question. Vous n'étiez pas là ce matin, non ?
En partie.
D'accord, parce que j'ai partiellement répondu ce matin. En fait, pourquoi est-ce qu'on a demandé le prix administré sur une énergie qui coûte plus cher et qui est arrivée, hein, c'est ça la question.
Oui.
Eh ben, je vais vous y répondre très simplement. C'est qu'aujourd'hui, le système du CSPE, donc le fait que vous avez tous, vous et moi, une petite ligne sur votre facture d'électricité, fait que celui qui produit l'électricité est racheté par EDF, et EDF se fait compenser par vous et moi d'une manière mutualisée. Donc pour nous, il n'était pas question que le producteur ou le fournisseur gagne double, c'est-à-dire d'une part se fasse compenser, et d'autre part revende au prix initial. Donc pour moi, c'était clair qu'il n'était... Bien sûr, on a eu plein d'offres qui disaient, ben voilà, ça coûte l'éolien, ça coûte 10 euros, 10 centimes le kilowattheure. Non. Ça, pour produire, ça coûte, je ne sais pas, 7, 8, vous leur vendez 10, EDF vous leur achète 10, EDF se rembourse sur le CSPE pour que ça revienne au prix de production. Moi, je veux un tarif de prix de production plus votre marge habituelle, je ne veux pas 10 centimes. Voilà, c'est comme ça que j'ai réagi. C'est aussi pour montrer qu'on ne pouvait pas gagner des deux côtés. À partir du moment où on a mis la CSPE, on ne pouvait pas fonctionner avec le double. Voilà.
Je veux bien le croire, sur l'éolien, le prix de rachat n'est pas très haut. Sur le photovoltaïque qui est racheté à 60 centimes, je ne vois pas comment vous pouvez sortir quand c'est administré.
C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je fanfaronne pas, parce que forcément j'ai joué sur mon statut. Je le dis très humblement. Je crois d'ailleurs que Polo avait fait une com en disant trois acteurs majeurs, le Paris Saint-Germain, les trois Suisses et Amorce. Voilà. C'était de la com, parce qu'à un moment donné, il fallait que les collectivités vous demandiez que Polo allait vers les collectivités. J'ai joué le marché. Enfin, je ne suis pas un grand libéral devant l'éternel. Mais...
Non, c'est complètement subventionné, les énergies renouvelables, il faut être clair. Et c'est subventionné par vous, par les factures de la CSPE.
Pierre Radan, tu voulais ajouter ton grain de sel.
Oui, j'ai beaucoup parlé ce matin, donc je ne vais pas prendre la parole tout de suite. Simplement, un petit persiflage. Vous avez une tribune particulièrement sympathique, avec un morceau, vous l'avez compris, un pistonné, qui a organisé, qui a fait ses petites courses de son côté, comme il vient
de dire. Tu peux pas dire ça,
Nicolas, vous n'avez pas la parole.
Et puis ensuite, deuxième évolution tout aussi amusante, mon voisin, qui est pour le marché, vous l'avez compris dans l'explication qu'il vient de donner, il essaie, lui, de se verticaliser. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué avec l'unbundling, avec la séparation des marchés, que l'esthétique européenne, c'était d'un côté on était producteur, ensuite transporteur et ensuite distributeur. Alors, il aspire tout de même pas à être transporteur, cela il ne peut pas. Mais il essaye d'être distributeur et aussi producteur.
Oui, je pense que là tu joues un tout petit peu sur les mots, à mon avis. Alors peut-être que